marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Interrogeons l'histoire, cherchons partout lumière et vérité.
Messali Hadj, une autre histoire de l'indépendance algérienne.
On a commencé à écrire sur les murs « Vive l'indépendance de l'Algérie ! L'Algérie libre vaincra ! Libérez Messali Hadj qui a été en prison !»
Messali, j'ai pas peur des mots. Dans tout le mouvement national jusqu'au 1er novembre 1954, il a été le seul, je dis bien le seul homme politique à avoir revendiqué l'indépendance totale de l'Algérie. Malgré toutes les années de prison qu'il a subies, et malgré les pires humiliations, et malgré les offres du colonialisme, il n'a jamais plié.
Est-il besoin de redire que ces dernières années, le président Bouteflika vivait dans une résidence médicalisée que rejoignaient seulement quelques berlines blindées par une route sécurisée, Zeralda entourée d'un grand silence. On entend beaucoup dire aujourd'hui que c'est la génération montante qui remettra en marche l'Algérie engourdie. Il est vrai qu'elle ne se sent pas, comme les précédentes, paralysée par le traumatisme des années 1990, la décennie noire. Mais si l'Algérie a besoin de se projeter enfin dans un nouvel avenir, elle a aussi besoin de retrouver son passé. Les images des célébrations de l'indépendance, par exemple, ne sont plus supportables, qui montrent une galerie de vieux généraux enfoncés dans leurs fauteuils comme dans leurs privilèges et qui trônent devant les portraits des héros de l'indépendance demeurés perpétuellement jeunes. À la réflexion, manque toujours dans cette galerie officielle un visage de vieux sage à barbe blanche, Messali Hadj. L'insurrection de novembre 1954 s'est faite sans ses militants qui ont été relégués peu à peu en deuxième division de la lutte, puis éliminés du jeu politique après l'indépendance. Il n'empêche, Messali a été le grand-père du nationalisme algérien. Les jeunes Algériens trouveront des ressources en eux-mêmes, mais ils ont peut-être besoin de l'aïeul. Il ne s'agit pas de faire de lui un leader démocrate à l'européenne, mais le traitement qui est fait de son histoire en Algérie est un véritable test des ouvertures possibles. Ce n'est pas un hasard si son souvenir est revenu dans les années 1980, qui ont abouti à une brève période de liberté. Et si son nom ressurgissait aujourd'hui, ce serait un signe supplémentaire de la possibilité, enfin, d'une vie politique concurrentielle en Algérie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Najib Sidi Moussa, bonjour.
Bonjour.
Vous voyez, j'arrive pas à dire vie politique concurrentielle.
C'est compliqué.
Si rare dans l'histoire de l'Algérie. Alors, vous publiez, c'est disponible en librairie dans deux jours, oui. Grâce aux presses universitaires de France, une autre histoire de l'indépendance algérienne. La question que je pose là, si jamais le nom de Messali Hadj revenait dans le grand mouvement qui s'est levé en Algérie ou dans la diaspora, bon, un historien n'est pas indifférent à ce qui se passe aujourd'hui. Vous étiez sur le pavé, place de la République.
Bien sûr, bien sûr.
Et là,
justement, j'ai surpris une conversation passionnée entre deux jeunes Algériens qui étaient à peu près de ma génération, mais qui étaient eux nés de l'autre côté de la Méditerranée. Et j'ai tendu l'oreille, parce que j'avais l'impression que c'était intéressant ce qu'ils se disaient. Et en fait, ils débattaient sur Messali, à savoir s'il était effectivement le père du nationalisme et de la révolution. Et comme quoi, son nom ressurgit toujours comme ça, quand il y a des grandes occasions, des grands mouvements de protestation, de contestation, d'effervescence, voire de révolution.
Alors son parcours, vous l'avez interrogé à travers des archives, des archives de mémoire de messalistes, des archives d'État aussi peut-être.
Oui. Alors, durant mon travail, hein, qui s'est allé sur une bonne dizaine d'années, j'ai eu l'occasion, même le privilège, je dirais, d'avoir bénéficié des archives de Messali et de son mouvement. Donc, c'est sa fille Janina qui me les a confiées et qui m'a permis de travailler dessus. Donc, il y a toute une série de correspondances entre militants, de militants à Messali, des rapports politiques qui permettent d'avoir de cartographier un peu l'espace militant, le recrutement, etc. Des photos, des enregistrements sonores qu'il faudra peut-être un jour aussi
nous
exploiter.
Confier.
on en rediscutera si vous voulez bien. Et aussi, alors il y a non seulement les archives de Messali et de son mouvement, des archives de messalistes, comme par exemple celle de Moulay Merba, qui était le secrétaire général du mouvement national algérien.
Et dont vous utilisez beaucoup les mémoires.
Tout à fait, tout à fait.
Qu'il a rédigé alors qu'il était en résidence surveillée après être rentré en Algérie en 62. Ben oui, pourquoi vous ne nous confieriez pas ces documents sonores? Vous avez confiance quand même dans la radio d'État française. Ah, elle a toujours très bien rendu compte de ce qui se passait pendant la guerre d'Algérie.
Bien évidemment.
Je ne sais pas si vous êtes immiscé dans la conversation des deux jeunes gens, Place de la République, vous auriez pu dire que le mouvement messaliste avait le bénéfice de l'antériorité. Il n'était pas quand même numériquement très important dans l'avant-guerre, même s'il avait commencé dès 1926.
Oui, tout à fait. Alors, dans l'entre-deux-guerres, entre les deux conflits mondiaux, le mouvement messaliste, hein, qui s'appelait alors l'étoile nord-africaine, on ne va pas forcément rentrer dans toutes les appellations, sachant que le mouvement a changé de nom plusieurs fois au cours de sa longue existence, était effectivement un mouvement minoritaire. Donc ceux qui portaient avec acharnement, avec détermination, la revendication qui était radicale, qui était celle de l'indépendance, donc de la rupture avec la France, ou en tout cas de la redéfinition de liens en mettant fin donc au joug colonial, étaient peu nombreux à ce moment-là. Donc c'est aussi la période héroïque du mouvement messaliste, et Messali Hadj faisait partie de cette poignée de militants et de dirigeants, ce qui lui donnait évidemment un bénéfice de l'antériorité.
Et il va faire le plein pendant les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, pendant ce que certains historiens comme vous appellent la décennie des partis, parce que il y a eu, j'arrive pas à le dire, je le redis, une vie politique concurrentielle.
Une politique concurrentielle.
En Algérie, entre 44 et 54, même si les élections telles que les permettaient les Français étaient régulièrement faussées.
Oui, alors c'est évidemment une expression que je cite et que je reprends à ma collègue Malik Haral, historienne, qui parle effectivement de décennies des partis politiques. C'est que à partir de la libération après la Seconde Guerre mondiale, bon, n'oublions pas aussi qu'il y a eu ces terribles massacres en mai 45 en Algérie, mais il y a eu des partis politiques, puisque c'était la forme d'organisation qui a été privilégiée par les colonisés pour exprimer leurs revendications. Donc il y avait le parti messaliste, il y avait le parti de Ferhat Abbas, l'UDMA, les communistes qui s'organisaient, sans oublier non plus les oulémas. Et là, on ne parle que de la vie politique des indigènes.
Messali était extrêmement populaire, un peu dans toutes les couches de la société, et jusque dans le monde rural. En témoigne une tournée triomphale qu'il a faite en 1952.
Oui. Oui.
Peut-être presque trop triomphale, d'ailleurs.
Oui, oui, au goût, en tout cas, des autorités coloniales qui craignaient des débordements, puisque chacun de ces déplacements occasionnait des rassemblements de la population, sachant que, à cette époque-là, donc en 52, Messali incarne vraiment l'idéal de l'indépendance. Hein, il fait quasiment l'unanimité. On n'est pas encore à une période qu'on évoquera peut-être après, c'est-à-dire celle de la crise de son parti, la crise du mouvement national, qui va déboucher sur le 1er novembre 54. Mais Messali, à ce moment-là, c'est l'homme de l'indépendance.
C'était peut-être pas une très bonne idée des autorités françaises de le claquemurer, comme elles le font, le mettant en résidence surveillée en 52, après cette tournée à Niort. Il avait été arrêté, on va parler que de ce qui s'est passé depuis 1939, en 39, en 41, en 43, en 45. Il est en résidence surveillée à Niort, donc à partir de 1952, il ne sera libéré qu'en 1959, si on l'autorisera en 1953 à assister aux obsèques de son épouse, Émilie Buscan, qui était une Française.
Elle meurt en 1953 à Alger. Et c'est une assemblée de militants français et algériens qui assistera à son enterrement en Lorraine, où son corps a été transféré, et en présence de Messali, qui a arraché au dernier moment le droit d'être là.
Par-delà la tombe de celle qui fut mon épouse, je m'adresse au peuple français et je lui dis: cette Française qui était Lorraine m'écrivait dans les moments les plus difficiles, dans le noir et le secret des prisons. Messali, tu es sur la bonne voie. Dans mon cœur de Française, je sens qu'il n'y a pas de frontière pour la liberté. Par-delà la tombe de celle qui fut mon épouse, je m'adresse au peuple algérien et je lui dis, « Vois, il y a des Français, travailleurs et démocrates qui sont avec toi dans la lutte contre les oppresseurs. Par-delà la tombe de celle qui fut mon épouse, je m'adresse au peuple algérien et français et je leur dis, « Ensemble, nous construirons une société plus humaine, plus juste, où la liberté ne sera pas un vain mot. »
Juste un mot, Nedjib, Sidi Moussa, de la structure familiale du mouvement, parce que on parle de parti, c'est aussi bien une famille avec un patriarche, ses enfants, sa femme qui jouaient un rôle important. À certains égards, c'est une confrérie, c'est un ensemble de clans.
Alors, il faut bien comprendre que Messali, de par sa socialisation, son parcours, il vient synthétiser différents modèles d'organisation, d'éducateurs et de chefs charismatiques. Donc oui, il y a une part importante jouée par le modèle confrérique, sachant que lui-même, dans sa jeunesse, était membre de la confrérie des Derkawa dans sa ville Tlemcen, sa ville natale. Il y a aussi le modèle du Parti communiste, puisque Messali, jeune, a adhéré au Parti communiste. Donc il y a emprunté aussi une rhétorique, une manière de s'organiser, l'importance du journal, comme chez Lénine, comme facteur d'organisation. Et il y a aussi, chez Messali, le modèle de l'instituteur. Il y a quelque chose, il y a un proverbe qui est souvent, une expression qui est souvent utilisée dans la propagande messaliste, c'est « si j'étais instituteur et si j'avais le peuple algérien pour élève, je lui apprendrais à conjuguer sur tous les temps et sur tous les modes le verbe « organise-toi, organise-toi, organise-toi ».
Le rapport avec les Français, là, pendant ces obsèques de 1953, il ne manque pas de dire qu'il est chez les travailleurs et chez les démocrates, enfin... dans la gauche française, ou dans des minorités de la gauche française, des soutiens naturels pour lui.
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est aussi une caractéristique et une constante chez Messali, c'est-à-dire de toujours distinguer entre la France colonialiste et la France populaire, la France ouvrière et la France démocrate. Il y a toujours eu chez lui le souci de chercher des alliés, de conserver ses amitiés, à commencer évidemment par les segments de la population qui étaient sensibles à la question anticoloniale pour les motifs de lutte anti-impérialiste ou anticapitaliste. Et il a trouvé naturellement ses alliés, chez les minorités au sein de la SFIO, des personnes comme Marceau Pivert, par exemple. Quand Marceau Pivert va décéder en 58, Messali pleurera la disparition d'un grand ami du peuple algérien. Mais il y avait des personnes comme Daniel Guérin, qui est devenu libertaire, des personnes comme Pierre Lambert, qui était trotskiste, etc.
Enfin, c'était des minoritaires.
C'était des minoritaires,
c'était pas les structures dirigeantes, ni du Parti communiste, ni de la CGT. De la CGT et de la SFIO.
Et de la SFIO.
53, les obsèques, il est en résidence surveillée depuis 52. Et voici qu'arrive l'année décisive, 1954. Et là, le mouvement messaliste, qu'il ne peut plus contrôler que de loin, commence à se diviser. Et un congrès est convoqué à la frontière de la Belgique et de la France, à Ornu. Je crois que les policiers français sont au courant des déplacements des militants messalistes. Et au fond, ils ont intérêt à ce que le mouvement se divise. Et vous avez étudié les correspondances à moitié cryptées qui sont échangées à ce moment-là entre militants. Lala considère qu'elle est divorcée et elle a décidé de créer un autre foyer où elle serait maîtresse de maison. Je ne crois pas que les invités seront nombreux chez elle parce que elle a... déjà beaucoup de gens qui la désapprouvent parce qu'elle a désobéi à son mari. Alors ça, c'est un partisan, Moulay Merba, il l'est encore, de Messali Hadj, qui dit qu'il y a des tendances qui s'opposent au patriarche. Il va y avoir trois tendances et c'est important de les distinguer.
Oui, tout à fait. Alors, l'échange, la correspondance est assez intéressante, c'est ce que j'ai pu trouver dans les archives de Messali et de Moulay Merba. Il exprime en fait les tensions qui traversent le mouvement messaliste entre 53 et 54, donc où on a une cristallisation de trois tendances. Donc les messalistes, c'est-à-dire les personnes qui continuent à reconnaître la légitimité et l'autorité de Messali pour conduire le parti, sa réorganisation dans la voie de la révolution et de la lutte armée. On a d'un autre côté ce qu'on a appelé les centralistes, c'est-à-dire en fait la majorité du comité central du parti messaliste, hein, sachant que la majorité du comité central donc a mis Messali et ses partisans en minorité, hein, avec une politique peut-être, en voulant mener une politique peut-être un peu plus de conciliation. En tout cas, ils ont été accusés, hein, de mener une politique de conciliation avec le néocolonialisme.
De passer trop de temps à l'hôtel Aleti à Alger avec des dirigeants français ou de participer trop près à des conseils municipaux.
Voilà, mais ça, c'est effectivement les controverses de l'époque et les mots de l'époque. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelait les activistes, c'est-à-dire les personnes qui ne croient plus en l'action politique et qui en même temps retirent leur confiance en Messali pour déclencher la lutte armée. C'est-à-dire que pour eux, la politique, c'est terminé, on n'a plus besoin de partis révolutionnaires, en un sens, et il faut déclencher l'insurrection au plus vite, et ensuite, les problèmes se résoudront.
Parmi ceux-ci, il y a Boudiaf, qu'on retrouvera au premier rôle assez souvent. Et c'est pendant que les messalistes se déchirent, que les activistes se multiplient, et peu à peu vont prendre la forme un petit peu plus tard, du FLN et déclencher l'insurrection du 1er novembre 1954, qui est ainsi considéré du côté messaliste.
Ce 1er novembre 1954, si le FLN existait, s'il avait dit « nous déclenchons la révolution au nom du FLN », je pense qu'aucun maquisard n'aurait soulevé, ne serait soulevé contre le colonialisme français, parce que le FLN n'existait pas.
Ils ont ramassé des responsables messalistes et ils ont ramassé aussi des membres du comité central de l'ancien. Pourquoi ? Parce que les Français, à ce moment-là, ils ne savaient pas exactement d'où ça venait.
Vers le 5 novembre ou le 20 novembre, il y avait 18 000 militants en prison que la France a arrêtés, tous les cadres messalistes, et jusqu'à la libération.
Ils ont utilisé le nom de Messali pour tromper les militants du parti du peuple algérien. Ils ont utilisé le nom de PPA pour tromper le peuple algérien. Parce que chez le peuple algérien, qui c'est qui déclenche la révolution en Algérie? Ça ne peut être que le PPA et Messali Hadj.
Témoignage du fils de Messali. Nos archives sonores sont extraites de deux documentaires que vous recommandez dans votre livre, Bien Une sûr. Autre histoire de l'indépendance algérienne, signé Benny Melapa et Jamel Zaoui. Alors, cette interprétation du 1er novembre, bon, on a bien compris que les activistes se sont séparés du patriarche, mais c'est exact de dire que beaucoup d'entre eux vont se retrouver emprisonnés après le 1er novembre à la suite d'une sorte de malentendu.
Oui, malentendu ou alors un calcul politique. Si vous prenez par exemple ce que dit Ahmed Ben Bella, donc qui sera le premier président de l'Algérie indépendante, mais qui faisait partie de ces activistes, il y avait aussi un calcul peut-être un peu machiavélique, sachant que s'il déclenchait les hostilités, la répression allait naturellement s'abattre sur les dirigeants connus, à savoir les messalistes, puisque les activistes sont plutôt des personnes qui ont connu pendant longtemps la clandestinité, qui n'ont pas forcément eu de responsabilité publique, qui ont été beaucoup moins élus, contrairement aux centralistes ou aux messalistes. Donc il y avait aussi une part de calcul, pas forcément de malentendu. Le malentendu, on peut le comprendre dans le sens où il y a également eu une manœuvre de la part de certains chefs activistes, chefs de maquis, qui, pour entraîner à eux des militants et dans le maquis, on dit qu'on déclenche la révolution au nom de Messali. Puisque c'était lui qui avait le prestige à ce moment-là, le 1er novembre 1954, le FLN n'est pas encore connu en tant qu'organisation. Ça va être progressivement que le FLN va s'imposer en tant que représentant ou en tant qu'organisation incarnant la lutte pour l'indépendance.
Et il va s'imposer sur le plan intérieur et aussi sur le plan extérieur, avec sa représentation au Caire. Comment se fait-il que le FLN ait été si aisément considéré comme l'ambassadeur du peuple algérien par les puissances arabes?
On peut l'expliquer de différentes raisons. Alors, il y a le fait que une partie de la délégation algérienne au Caire va basculer très vite du côté des activistes. Donc, ils avaient déjà une bonne part des contacts diplomatiques, le soutien aussi de Nasser en Égypte. Hein, il y avait des rapports de proximité, notamment entre Ben Bella et Nasser. Et ensuite, les activistes, hein, le FLN, donc, qui va se constituer progressivement avec le ralliement de militants de différentes origines, qui viennent de différentes organisations, eh bien le FN va davantage réussir à attirer à lui des étudiants, des diplômés, des lettrés, des personnes qui ont déjà une certaine expérience de la représentation et du métier de la politique, voire de la diplomatie.
1956, le très important congrès du FLN maintenant, de la Soumane, qui dit que le FLN est le seul unique représentant du peuple algérien. L'année 1957, il est toujours en résidence surveillée, maintenant à Belle-Île-en-Mer. Mais Salih Hadj est extrêmement difficile pour son mouvement. Assassinat de leaders syndicalistes. Oui. Massacre par une unité du FLN de beaucoup de messalistes à Mélouza. Et qu'est-ce qui se passe dans les maquis? Parce qu'il y a des maquis aussi qui relèvent du messalisme, peut-être, mais il en est. Voici le témoignage du chef de l'un d'entre eux.
Quand ils sont venus me voir, ils n'avaient pas de tenue militaire. Il n'y a que nous qui avions des tenues militaires. On leur a dit, si vous êtes un maquis et que vous êtes d'accord pour que chacun combatte la France de son côté, il n'y a pas de problème. Que chacun tienne sa zone. Ensuite, on a préparé à manger, on a discuté entre nous, puis on s'est quitté en toute amitié. Il n'y avait pas de problème. 3 jours plus tard, ils m'ont envoyé l'armée française, qui nous a encerclés avec des mitrailleuses. On a essuyé un accrochage. Quelques jours plus tard, ils m'ont envoyé un nouvel émissaire, un ancien militant de l'OS que je connaissais de longue date. Il m'a dit, il y a quelqu'un du FLN qui veut te rencontrer et discuter. Mon second alors m'a dit, toi tu n'y vas pas, c'est moi qui vais à ta place. Il est mort depuis. Il est parti avec notre commissaire politique. À peine arrivé, ils les ont attrapés et leur ont mis une balle chacun.
Donc, dans la Djourjoura, liquidation d'un maquis messaliste. Là.
Oui, alors ce genre de témoignage est caractéristique de ce qu'on peut trouver dans les archives, dans les témoignages que j'ai moi-même recueillis. Hein, d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, j'ai vu des vieux messieurs, des anciens maquisards qui pleuraient non pas pour avoir été torturés par l'armée française, mais plutôt en raison de leur déception et du fait d'avoir été victime de délation, hein, notamment de la part de certains maquis concurrents, donc du FLN. Mais il faut savoir que assez rapidement, les messalistes vont perdre pied dans les villes et dans les maquis en Algérie. Alors, ça va commencer notamment, cette rivalité violente, cette compétition violente va commencer notamment en Kabylie, hein, où progressivement les maquis messalistes vont se faire expulser de cette région qui était et qui est restée en fait un vivier du combat indépendantiste. Et ensuite, il va demeurer quelques maquis, quelques bandes, notamment dans le sud algérien. On connaît entre autres, hein, la fameuse affaire Bellounis, hein, qui se termine tragiquement en 58.
Là, c'est un chef messaliste qui va prendre langue avec les Français.
Tout à fait, oui, qui va conclure un pacte militaire avec les autorités françaises.
Mais le messalisme, il était fort dans la diaspora encore.
Oui, complètement. C'est-à-dire que la perte de terrain dans les maquis et en Algérie va être ensuite suivie par un reflux dans l'émigration, qui était une autre place forte du messalisme. Hein, sachant que, historiquement, le nationalisme révolutionnaire était très fort dans les villes en Algérie, en Kabylie également, et surtout dans l'émigration, puisque l'organisation de l'État nord-africaine et ensuite du Parti du peuple algérien est née dans l'émigration. Hein, donc dans ce prolétariat immigré, extrêmement précaire, et qui a porté la revendication indépendantiste de la façon la plus radicale. Donc le reflux messaliste dans l'émigration, il va être surtout marqué à partir de 57, donc notamment avec les épisodes que vous avez mentionnés, entre autres l'assassinat de dirigeants syndicalistes comme par exemple Abdallah Filali, qui était le bras droit de Messali et le cofondateur du Parti du Peuple Algérien en 1937.
Le gouvernement français libère de Belle-Île Messali en 1959. Le FLN s'est attaqué à Messali personnellement ?
Oui, alors il y avait déjà eu une tentative, mais qui n'a pas abouti en 55-56. Et il y a eu un attentat, donc en septembre 59, un commando a fondu sur Messali et ses gardes du corps, qui, et Messali, par miracle, a réchappé à cette attaque. Et donc c'est quelque chose d'assez surprenant, d'ailleurs, qu'il ait pu en sortir indemne.
Alors là, vous êtes en train de dire que sa figure de sage devient une figure de miraculé, sauf que vous n'êtes pas dans l'histoire sainte en même temps, Nadjib, c'est dit tout ça. Parce que vous me dites, oui, il y a ces oppositions, mais en même temps, dans chaque camp, il y a des désobéissances.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Il y a des désobéissances par rapport au chef de son camp.
Oui, oui, oui. Mais qui se produisent en réalité sur toute cette longue trajectoire de Messali, hein, qui, en tant que militant et ensuite dirigeant politique, commence dès les années 20. Mais les désobéissances, elles se font sentir ou connaître dès la crise de 53-54. Donc on a des messalistes qui rejoignent très vite le FLN dès cette période-là, dès 54-55. Quand le FLN lance par exemple des actions en France, il y aura un choc psychologique qui fera que les messalistes vont rejoindre le FLN.
En 1962, il reste au vieux chef peu de fidèles au moment de l'indépendance.
On a décidé de participer à la construction, à l'édification de l'État algérien conformément au principe de l'autodétermination.
Envisagez-vous de transformer le MNA, le maquis du MNA, en parti politique ?
Nous avons déjà fait une reconversion du MNA en France. Cette reconversion se fait en France et aussi en Algérie, politiquement parlant, d'une manière progressive. Nous sommes un parti politique clandestin. Nous allons redevenir un parti politique légal et nous allons porter notre combat politique, n'est-ce pas, d'une manière normale et légale.
Illusion. Le mouvement messaliste ne sera pas reconnu en Algérie et Messaïadj pourra se consacrer à ses mémoires. Moulay Merba, que vous citez très souvent, désobéissant à Messali, veut s'installer en Algérie. Eh ben, il est envoyé dans une gendarmerie pendant plusieurs années où il pourra aussi écrire ses mémoires. Vous évoquiez tout à l'heure les conversations, Nedjib Sidi Moussa, que vous avez eues place de la République avec des membres de la diaspora. Il y a une revendication qui va peut-être apparaître, là, dans le mouvement algérien d'aujourd'hui, c'est celle d'une constituante. Et là, il y a des échos du messalisme qui vont se faire entendre.
Oui, complètement. C'est une revendication qui, aujourd'hui, est portée par certains partis politiques d'opposition depuis de nombreuses années. Mais cette revendication d'assemblée constituante souveraine a été historiquement soutenue et défendue par le mouvement messaliste depuis ses origines. Et même après l'indépendance, quand le parti sera confiné à la clandestinité et en Algérie et à l'exil, ils vont continuer à marteler ce mot d'ordre-là.
Mais ils veulent faire une constitution, les dirigeants actuels de l'Algérie, une nouvelle. Ils en ont déjà fait beaucoup.
Ah, il y aura une modification de la constitution, mais ce ne sera pas forcément une assemblée constituante souveraine en donnant véritablement la parole au peuple.
Alors, votre livre, disponible dans 2 jours, il faut en prévenir les auditeurs aux presses universitaires de France.
Et en Algérie, aux éditions Barzac.
Trajectoire révolutionnaire des messalistes apparaît en Algérie en même temps.
Tout à fait.
Une autre histoire de l'indépendance. Alors, on souhaite encore plus de succès au livre en Algérie qu'en France. Merci à vous.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée par Nolwenn Bokri avec Sonia Leglen à la réalisation et Mathias Alléon à la technique.